Bonsoir à tous, travailleuses, travailleurs, chers amis, chers camarades. La démission de Colomb, qui fait suite à celle de Hulot, a déclenché un psychodrame à l'Élysée. Et on nous a amusés avec ça toute la semaine. Mais qu'est-ce que ça change pour nous ? Absolument rien. Macron va continuer sa politique anti-ouvrière, contre les travailleurs, contre les retraités, contre les chômeurs, contre les migrants. Quant à son mépris social, eh bien, il continuera à s'étaler. Cette semaine, il a encore fait la leçon à une retraitée qui vit avec 500 euros de pension en lui expliquant qu'elle n'avait pas assez cotisé. Et il a conclu la journée en disant que le pays n'avait pas à se plaindre. Et puis vous vous souvenez sûrement de la leçon qu'il a faite il y a 3 semaines aux jeunes jardiniers, hein, et sa phrase désormais célèbre « Je traverse la rue et je vous en trouve du travail ». Alors je veux revenir un petit peu là-dessus, et sur cette phrase en particulier, parce qu'elle en dit long sur notre société. Elle en dit long sur notre société de classe. Du point de vue des patrons, et de Macron, ce représentant de la bourgeoisie, eh bien les choses sont simples. Quand tu appartiens à la classe ouvrière, eh bien tu fais ce que l'on te dit de faire. Tu as 2 bras, tu as 2 jambes, eh bien tu vas bosser. Et si tu es chômeur, eh bien il faut tout accepter. Ce que tu as envie de faire de ta vie, les études que tu as faites, le métier pour lequel tu as été formé, tes problèmes personnels, savoir qui va s'occuper des enfants, tout ça on s'en moque. S'il y a du boulot que dans l'hôtellerie-restauration ou dans le bâtiment, eh bien tu prends. Et si tu n'es pas prêt à cela, eh bien tu n'as que ce que tu mérites. Alors c'est rarement dit aussi crûment, mais c'est bien le sort que la société capitaliste réserve à tous ceux qui appartiennent au monde du travail. C'est un fait. Quand on n'a que sa force de travail pour vivre, eh bien on n'a pas le choix. Et c'est le lot de la grande majorité des travailleurs que de faire des boulots qu'ils n'ont pas envie de faire, des boulots qui payent mal et qui déglinguent la santé. Et ce n'est certainement pas une question individuelle. Des millions de salariés sont ballottés de petits boulots en petits boulots, de temps partiel en temps partiel. Même quand on a un emploi stable, eh bien, il faut accepter de bosser sur n'importe quel horaire, de faire des dizaines de kilomètres. Il faut accepter d'en faire toujours plus, de suivre les cadences et les rythmes de travail imposés, même quand son corps n'arrive plus à l'encaisser. Et tout ça pour toucher un salaire qui ne couvre même pas les dépenses du mois. Alors bien sûr, dans tout ça, il y a aussi des travailleurs qui sont plus qualifiés et dont les compétences sont plus recherchées par les entreprises. Alors eux, ils ont un peu plus de marge de manœuvre, ils ont plus de liberté, leurs conditions de travail et leurs salaires peuvent être meilleurs, tant que le patronat trouve un intérêt à les exploiter. Parce que lorsque les capitalistes retirent leurs capitaux et qu'ils ont décidé de changer de crèmerie, eh bien, et que leur entreprise ferme, eh bien, ils sont licenciés, comme tous les autres, et comme ceux qui sont tout en bas de l'échelle, eh bien, ils perdent tout. Quand on appartient au monde du travail, on n'échappe pas à la condition ouvrière. Ce qui nous unit dans un sort commun, c'est de ne pas être maître de son travail et de son salaire. C'est d'être dépendant de la volonté et des besoins d'un patron, de celui qui brasse des dizaines de milliers d'euros, des millions d'euros. On nous renvoie sans cesse à la devise « liberté, égalité, fraternité ». Mais qu'est-ce qu'elle vaut pour le monde du travail ? Nous sommes au 21e siècle, mais la société est toujours dominée par une classe sociale, par une toute petite minorité, la classe capitaliste, qui prospère sur l'exploitation de la grande majorité et qui détient entre ses mains l'avenir du monde du travail et de l'ensemble de la société. Individuellement, on est piégé par cet ordre social. Chaque travailleur ne peut que se soumettre à la domination patronale. Mais collectivement, nous pouvons la combattre, à condition bien sûr d'en être conscient. Alors oui, nous avons toutes les raisons de rejeter Macron, de rejeter sa politique anti-ouvrière, de rejeter son mépris, mais il faut surtout aussi et surtout rejeter la classe sociale qu'il représente et le système qu'il défend, c'est-à-dire le capitalisme. Il ne fera qu'un temps, Mais la bourgeoisie, elle, elle est installée au pouvoir depuis plus de 2 siècles. Elle domine l'économie du haut de ses milliards. En 2017, l'envolée des bourses a fait gagner 1000 milliards de dollars aux 500 plus grandes fortunes mondiales. Le propriétaire de LVMH, Bernard Arnault, a vu son patrimoine s'accroître de 20 milliards, c'est-à-dire 1300 euros toutes les 2 secondes. Pourquoi accepte-t-on la domination de cette classe capitaliste? Si cette classe sociale dirigeait bien et que l'économie se développait et qu'elle débouchait sur un progrès général de la société, on pourrait peut-être se dire que l'exploitation et le parasitisme qu'elle opère a une justification et qu'elle mérite de diriger. Mais c'est exactement l'inverse. Le capitalisme est en bout de course. Il est enfoncé dans une crise dont il ne peut pas sortir. Les marchés sont saturés. La surproduction est généralisée et elle condamne l'économie au marasme général. Pour accroître ses profits, la bourgeoisie n'a plus que 2 solutions. Piquer des parts de marché à ses concurrents, c'est-à-dire mener la guerre commerciale, qu'elle prenne la forme du libre-échange ou du protectionnisme, et puis accroître l'exploitation des travailleurs, c'est-à-dire faire reculer les conditions de travail, imposer aux salariés de travailler plus de façon à comprimer les salaires et les emplois. À cela s'ajoute le poids extraordinaire pris par la finance. Elle ajoute non seulement son parasitisme, mais elle menace en permanence de faire plonger l'économie dans un nouveau krach. Le capitalisme est par nature un système économique chaotique parce qu'il est gouverné par le marché, la concurrence et la loi aveugle du profit. Mais la finance et la spéculation qui va avec amplifient cette instabilité générale. À la moindre annonce économique, à la moindre secousse politique, à la moindre incertitude, des masses fantastiques de capitaux se jettent sur tel ou tel secteur, affluent ou quittent tel ou tel pays. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Turquie ou en Argentine. Et ce sont les travailleurs de ces pays qui en payent le prix fort. Mais demain, à qui le tour? Tous les dirigeants économiques sont d'accord sur une chose. Nous allons tout droit vers un nouveau krach. La seule interrogation qu'ils ont, c'est de savoir quand il se déclenchera. Autrement dit, même eux, même ceux qui en profitent, ne croient pas dans ce système. Dernièrement, la presse est revenue sur l'histoire du krach de 2008, la crise des subprimes, puisque cela fait exactement 10 ans. Vous avez peut-être vu des reportages montrant la consternation et le désarroi des employés des grandes banques, des traders et des hauts dirigeants. Ils étaient complètement paniqués et dépassés par les événements. Ils ont allumé le feu et ils ont été incapables de faire quoi que ce soit pour qu'ils n'embrasent pas toute l'économie. Et que s'est-il passé ? Eh bien, tous les travailleurs l'ont payé, à l'échelle de toute la planète. Ils l'ont payé en perdant leur emploi, pour beaucoup, en perdant parfois leur maison, comme aux États-Unis, en perdant la moitié de leur pension de retraite, en Grèce. Nous, ici, nous l'avons payé, et nous continuons de le payer, par plus de chômage et de précarité. À l'inverse, les financiers, la fortune et la bourgeoisie, qui étaient à la base de toutes ces spéculations, ont été sauvés à coups de centaines de milliards par les États qui ont demandé aux banques centrales d'ouvrir les robinets. Et est-ce que les responsables ont été sanctionnés? Est-ce qu'on leur a enlevé leurs responsabilités? Eh bien non. Le PDG de la seule banque qui a été lâchée par les pouvoirs publics, la banque Lehman Brothers, est aujourd'hui à la tête d'un fonds qui gère 200 millions de dollars d'actifs. Il est milliardaire. Un autre grand spéculateur de l'époque, John Paulson, qui avait accumulé 3,7 milliards sur les subprimes, a depuis 2008 ramassé 5 autres milliards, en spéculant cette fois contre la Grèce. Et cela, et aujourd'hui, ce sont toujours ces gens-là qui sont aux manettes. Et cela dans une situation encore plus fragile, parce que des centaines de milliards ont été injectés depuis la crise de 2008, et ce sont autant de matières explosives. Alors on ne peut faire aucune confiance dans ces gens-là. Le capitalisme est un système injuste et inégalitaire parce qu'il est basé sur l'exploitation d'une classe par une autre, mais il est aussi complètement fou et irrationnel. Et il conduit la société de catastrophe en catastrophe. Le capitalisme, c'est le passé. Et l'avenir, eh bien, c'est de se battre pour le renverser. La bourgeoisie a mérité un temps son appellation de classe révolutionnaire. Bien sûr, elle a toujours fait ses profits sur la peau des travailleurs. Elle a accumulé ses premiers capitaux dans le sang et la boue, comme disait Marx, au travers du commerce triangulaire, de l'esclavage et d'une exploitation féroce dans les bailles industrielles qu'elle avait construites. Mais contrairement à l'immobilisme de la noblesse de l'Ancien Régime, qui vivait du parasitisme pur et simple, la bourgeoisie réalisait ses profits en construisant des usines, des routes, des ponts, des chemins de fer. Son système reposait sur la production et sur le développement de l'industrie, une immense machinerie qui a fait naître un système productif qui a dépassé tout ce que l'humanité avait inventé. Mais aujourd'hui, la bourgeoisie et le capitalisme n'ont plus rien de progressiste. Oh, bien sûr, la vie continue. Il y a des progrès scientifiques, il y a des innovations. Le capitalisme a l'art de créer de nouveaux besoins. Et puis il a l'art aussi de façonner de nouvelles habitudes sociales. Prenez la connexion Internet. Elle est devenue aussi, et peut-être même plus importante, que la machine à laver la vaisselle. Mais à côté de cela, les familles ont toujours du mal à s'acheter de la viande, du poisson, du fromage. Elles ne peuvent pas se payer une mutuelle ou le permis de conduire des enfants. Le smartphone, il a pénétré jusque dans les régions les plus reculées d'Afrique ou d'Asie. Et il y est utile. Mais ce sont des régions qui n'ont parfois même pas l'électricité ni l'eau courante. Les dirigeants des pays riches parlent de relancer la conquête spatiale, mais ils disent ne pas avoir d'argent pour maintenir les hôpitaux de proximité, pour rénover les chemins de fer, pour entretenir les routes ou les ponts et éviter des catastrophes comme celle de Gênes, par exemple. La société et l'économie marchent sur la tête parce qu'on ne peut pas décider collectivement en fonction des intérêts du plus grand nombre. Les choix fondamentaux pour développer harmonieusement la société nous échappent. Ils sont laissés dans les mains de la classe capitaliste et au hasard de l'initiative privée et du marché. C'est un immense gâchis. Et des millions de femmes et d'hommes sont condamnés à l'inactivité, alors qu'ils pourraient être utiles. Au lieu de servir pour construire, rénover, faire de la recherche, des centaines de milliards alimentent les marchés financiers et la spéculation, alors que la science avance et permet une maîtrise croissante de la nature. Nous sommes incapables de contrôler les conséquences de notre propre activité économique sur la planète, sur le climat, et nous sommes incapables d'enrayer la catastrophe écologique. Les capitalistes sont devenus un obstacle au progrès collectif, et à l'échelle de la société, le rôle réactionnaire de la bourgeoisie ressort par tous les bouts. La crise du capitalisme, les rivalités entre les bourgeoisies nationales nous ont déjà menés à deux guerres mondiales. Aujourd'hui, des millions de femmes et d'hommes chassés de leur pays par la guerre, l'oppression ou la misère s'entassent dans les camps infâmes où sont traqués, ou alors ils sont traqués et condamnés à errer de pays en pays quand ils ne meurent pas dans la traversée de la Méditerranée. Il y a partout des foyers de guerre qui menacent de se transformer en une guerre plus générale, parce qu'ils sont aussi le théâtre de rivalité des grandes puissances. Et puis, on assiste partout à la montée de l'extrême droite et à l'emprise croissante des idées réactionnaires. Dans toute l'Europe, la crise économique, les plans d'austérité, le chômage, le désespoir face à l'avenir nourrissent les courants nationalistes, xénophobes et anti-européens. En Hongrie, en Autriche, en Italie, les partis d'extrême droite sont au pouvoir. En Suède et en Allemagne, les dernières élections ont marqué un renforcement de cette extrême droite. Et partout, la situation peut très vite dégénérer. Comme cela a été le cas il y a peu à Chemnitz, en Allemagne, où divers groupes d'extrême droite, y compris des néo-nazis, se sont livrés à des chasses à l'homme contre des étrangers, contre un restaurateur juif et des militants de gauche. Eh bien, penser que nous sommes ici, à l'abri de tels affrontements, est un leurre. Oui, la situation est grave. Mais on ne se protégera pas des dangers de l'extrême droite en faisant de la morale aux travailleurs qui prêtent l'oreille aux idées nationalistes. On ne pourra combattre le poison de ces idées dans la classe ouvrière qu'en leur opposant les idées, les intérêts des travailleurs et la nécessité de riposter à la lutte de classe que le patronat mène tous les jours. Militer pour montrer aux travailleurs que les politiciens de la bourgeoisie cachent les responsabilités du patronat derrière des boucs émissaires est la seule perspective. Militer pour défendre parmi les travailleurs une politique de classe contre la bourgeoisie et son ordre pourrissant est la seule perspective. Les Le Pen, les Salvini et compagnie disent défendre les intérêts des plus pauvres en empêchant les migrants de mettre le pied en Europe. Mais ils sont aussi anti-ouvriers qu'ils sont anti-migrants. En Autriche, le gouvernement a allongé le temps de travail légal pour porter la journée à 12 heures. En Italie, Salvini, ce ministre de l'Intérieur qui a fermé les ports italiens aux bateaux de secours, a aussi expliqué, je le cite, « C'est bien lutter contre la précarité, mais il ne faut surtout pas que cela nuise aux entreprises. » Autrement dit, comme les autres, il est à plat ventre devant les patrons et il les aidera à faire pleuvoir les coups sur les travailleurs. À toutes les époques, les patrons ont cherché à dresser les travailleurs dits nationaux contre les étrangers. En face, le mouvement ouvrier a opposé le mot d'ordre « Travailleurs de tous les pays, unissez-vous ». Et les premiers militants socialistes et communistes ont opposé l'internationalisme au patriotisme, le drapeau rouge au drapeau tricolore. Eh bien, nous devons retrouver ces valeurs des mouvements ouvriers. Nous devons nous démarquer du chauvinisme et du nationalisme que tous reprennent à leur compte, y compris certains partis dits de gauche. Tous ceux qui montrent du doigt l'étranger, l'Europe ou l'Allemagne, exonèrent les patrons bien français de leur responsabilité dans la crise et le chômage. Les responsables de cette crise, du chômage de masse et de cette société de plus en plus barbare, c'est la classe capitaliste. C'est elle qu'il faut combattre et qu'il faut viser à renverser. Il en va des intérêts des exploités, mais il en va aussi de l'avenir de l'humanité tout entière. La crise, les inégalités, l'exploitation ou la montée des idées réactionnaires ne sont pas le résultat de mauvais choix économiques que l'on pourrait changer du haut des institutions. Elles sont la résultante d'un ordre social. Le fond du problème, ce n'est pas tel ou tel homme ou étiquette politique. Ce n'est même pas ses bonnes intentions vis-à-vis des travailleurs. C'est l'ordre social dans lequel il gouverne. C'est la classe capitaliste et les lois économiques auxquelles il se soumet. Tant que la bourgeoisie règne du haut de sa propriété privée, c'est elle qui détient le pouvoir et impose ses intérêts. Confronté à cette réalité, Léon Blum avait parlé en son temps, dans les années 30, du mur de l'argent. Plus récemment, eh bien, Hulot, en démissionnant, en a parlé aussi. Lui, hein, il appelle ça le poids des lobbies. Mais de fait, tout gouvernement, quelles que soient ses déclarations et ses intentions, gère les affaires de la bourgeoisie, comme s'il était son conseil d'administration. Et les politiciens qui prétendent à la tête de l'État, dans le cadre de cette société capitaliste, pouvoir imposer une politique qui redistribuerait mieux les richesses, qui prendrait mieux soin de la planète et qui régulerait le capitalisme pour éviter les crises, ce que fait par exemple Mélenchon, sont des illusionnistes. Il n'y a pas d'autre issue que de renverser le capitalisme et le pouvoir de la bourgeoisie et de réorganiser l'économie sur des bases collectives et planifiées démocratiquement pour sauver l'humanité de la barbarie. Et ce sont les travailleurs qui peuvent mener ce combat. À condition, bien sûr, d'en être conscient. Et les travailleurs, ils sont en première ligne dans la lutte de classe. Il suffit de franchir la porte d'une entreprise pour comprendre qu'il faut se défendre au quotidien, que ce soit pour résister aux cadences, se faire payer ses heures de travail ou tout simplement pour se faire respecter. Cette résistance, elle s'exerce de plein de façons. On peut traîner les pieds, on peut faire semblant de ne pas avoir entendu tel ou tel ordre. On peut aussi agir collectivement. On peut pétitionner, se rassembler pour aller voir ensemble la direction. On peut débrayer et on peut faire grève. Et c'est là, au cours de ces actions collectives, que les travailleurs découvrent leur puissance sociale et leur capacité à changer le rapport de force avec le patronat. Découvrir que l'on peut se défendre collectivement et inverser le rapport de force avec la bourgeoisie peut se faire quasi naturellement au cours de la lutte de classe. Mais la conscience politique d'avoir à renverser la bourgeoisie et à prendre le pouvoir est une toute autre affaire. Et cette conscience-là, eh bien, elle nécessite une politisation. Et elle dépend de l'existence d'un parti. Elle dépend de l'existence de militants communistes révolutionnaires, c'est-à-dire de militants convaincus que la lutte des travailleurs pour leurs conditions d'existence, pour leur salaire ou leur emploi, et la lutte pour leur émancipation totale, pour la fin de l'exploitation, ne font qu'un seul et même combat. Tout dans la situation actuelle montre que les travailleurs ne parviendront pas à défendre leurs conditions d'existence sans renverser le pouvoir de la bourgeoisie. La moindre revendication se heurtera au pouvoir patronal. Récemment, j'ai été interpellée sur le fait qu'il faudrait revendiquer le SMIC à 2000 euros net parce que les 1800 euros net que j'avais mis en avant dans la campagne des présidentielles comme une nécessité sont déjà dépassés par l'inflation. C'est tout à fait juste. Mais la question, en fait, elle n'est pas là. Qui peut penser que le patronat acceptera de porter le SMIC ne serait-ce qu'à 1400 euros net? Avec la crise, dans cette situation où la bourgeoisie est à l'offensive pour reprendre des droits aux travailleurs, elle ne lâchera rien. Et chaque revendication sérieuse venant des salariés lui sera intolérable. Et elle ne pourra que faire l'objet d'une véritable guerre sociale. Alors, si l'on veut réellement assurer nos besoins vitaux, des salaires et des pensions de retraite dignes, si on veut imposer de répartir le travail entre tous, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra résorber le chômage, eh bien, il faut être conscient qu'on aura à se battre jusqu'à exproprier la bourgeoisie et lui arracher le pouvoir. Pour que le combat des travailleurs pour leurs intérêts matériels aboutisse, il doit se mener avec la conscience communiste révolutionnaire et avec la volonté qu'il faut exproprier la bourgeoisie et la remplacer au pouvoir. Militer pour les intérêts des travailleurs, c'est militer pour la révolution sociale. Alors cette conscience, elle est loin de l'état d'esprit actuel des travailleurs. Mais les tâches qui se posent à nous ne se déduisent pas du moral des travailleurs à tel ou tel moment. Elles se fondent sur une réalité objective, sur la réalité objective de la lutte de classe et sur la situation du capitalisme. Et elles se fondent sur le fait que la classe ouvrière est une classe que rien n'attache à cette société. Comme le disait Marx, elle n'a que ses chaînes à perdre. La seule perspective qui s'ouvre à nous, c'est de faire confiance dans la classe ouvrière. Et c'est de l'aider à accéder à cette... conscience que la tâche de transformer la société dépend d'elle et qu'elle en est capable. Oui, les travailleurs sont capables de prendre le pouvoir et de l'exercer 1000 fois mieux que la bourgeoisie. Collectivement, la classe ouvrière a la capacité de réorganiser l'économie au service du plus grand nombre. Les grands médias et les politiciens nous expliquent que sans cette bourgeoisie, rien ne se ferait parce que c'est elle qui entreprend et qui sait diriger. Mais prenez ce qui se passe à l'échelle d'une grande entreprise. Dans l'écrasante majorité des cas, la bourgeoisie ne dirige pas, elle encaisse. Elle a pris des parts dans l'entreprise, elle est actionnaire, mais elle ne met jamais les pieds dans l'entreprise. Pour diriger, elle paye du haut en bas de la hiérarchie toute une armada de mercenaires qui sont obsédés par la rentabilité. Et c'est sur les ouvriers, sur les employés et les comptables, sur ceux qui sont au bas de l'échelle, que retombent les problèmes et les conséquences de leurs décisions. Dans les entreprises, ce sont les travailleurs qui connaissent le travail, qui résolvent les problèmes techniques et qui font tourner la boutique. Le rôle des grands actionnaires, c'est de prendre les bénéfices et d'en demander toujours plus. Alors oui, la classe ouvrière fait déjà tourner toute l'économie et toute la société. Elle le fait aujourd'hui pour le compte de la bourgeoisie. Eh bien, demain, elle sera capable de la faire tourner pour son propre compte. Les travailleurs n'ont pas besoin de ces actionnaires, qui ne sont que des parasites. Ils n'ont pas besoin pour produire des voitures, des salades, ni pour éduquer, soigner ou faire circuler les hommes et les femmes. Oui, les travailleurs et les classes populaires sont tout à fait capables de diriger. Et prenez les salariés des EHPAD qui se dévouent aux côtés des anciens pour un salaire de misère. Prenez les ouvriers qui s'escartent la santé sur les chantiers du bâtiment et les travaux publics. Prenez les ouvriers des chaînes de montage. Prenez les bataillons du nettoyage, du gardiennage et de la grande distribution. Eh bien, ces femmes et ces hommes savent ce que cela veut dire travailler et devoir se serrer la ceinture. Et ils représentent mille fois mieux la vie et les intérêts de la majorité de la population. Et nul doute que s'ils accédaient au pouvoir, eh bien, ils auraient, eux, pour priorité de satisfaire les besoins essentiels des plus pauvres. Et tous les problèmes qui apparaissent aujourd'hui comme insolubles, loger tout le monde, soigner, donner du travail et de l'éducation à tous, accueillir les migrants, eh bien, avec les travailleurs au pouvoir, tous ces problèmes pourraient très facilement trouver leur solution. Alors oui, vive les travailleurs, vive leur lutte et la perspective de la révolution.